La paracha Kitetsé commence par ces mots. Kitetsé la milchama al oiveha, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis. Eh bien, la suite nous indique, Hachem livrera cet ennemi en tes mains, tu lui feras des prisonniers, et si parmi ces prisonniers, tu vois une femme de belle apparence, et si tu deviens amoureux d'elle et que tu veuilles la prendre pour épouse, etc. Donc, ces versets peuvent être commentés de différentes manières, selon que le commentateur cherche à restituer simplement le sens littéral, le pshat, ou s'il explore d'autres niveaux de signification, les niveaux du pardès, et en particulier le remez, les allusions, ou le sod, le sens mystique. Commençons par le sens littéral. A priori, on comprend tout de ce verset, puisqu'il nous explique que, eh bien, en quelque sorte, il y a un encouragement, en sorte tu sortiras en guerre et Hachem livrera tes ennemis en ton pouvoir. Bien. Ensuite, le sens littéral est encore tout à fait clair. Il précise, un soldat qui fait parmi ses captifs une captive de belle apparence, eh bien, il peut la désirer et souhaiter l'épouser, et même l'épouser. Mais le texte ensuite précise les conditions. Il ne va pas l'épouser immédiatement, il faut attendre suffisamment de temps pour qu'elle se présente sous un jour moins favorable. En même temps, la Torah mettra en garde contre les effets négatifs d'une telle décision, parce que l'éducation des enfants dépend d'une manière très importante de la mère et de sa culture, etc. Ce n'est pas en se convertissant en une seconde qu'elle peut acquérir cette culture, il faut bien entendu tout un processus. Et cette indication de ce début de la paracha peut faire comprendre que, eh bien, les effets négatifs sont soulignés, l'éducation des enfants, les effets négatifs sont indiqués puisque le soldat devra attendre beaucoup de temps avant de pouvoir prendre une décision de se marier. Eh bien, tout cela peut s'expliquer parce qu'il faut que le soldat revienne sur son premier mouvement. On lui laisse le temps de revenir d'un désir simple à une réflexion et une décision prise en connaissance de cause. Voilà donc, en quelque sorte, les quelques mots de compréhension de ce verset, de ce début de paracha au sens littéral. Voyons ce qu'il en est au niveau des allusions. Eh bien, on a une allusion. Cette captive de belle apparence, ce serait en fait, eh bien, comment dire, le mauvais penchant. Car la guerre de l'homme contre ses propres passions, c'est une guerre à proprement parler. Et la Torah n'a pas attendu les explications des psychanalystes pour affirmer que l'homme est composé de deux penchants, le bien et le mal, et qu'il y a une lutte permanente pour que le penchant au bien domine en permanence, que l'être humain travaille sur ses penchants, sur ses comportements, etc., de manière à rester dans la voie de Hachem. Ici, on a une allusion claire. Regardons. Le mot vayitzer comporte deux lettres yud, ce qui est totalement inutile du point de vue orthographique ou grammatical. Eh bien, ces deux lettres identiques, dont l'une inutile, sont en fait une allusion aux deux penchants qui sont dans l'être humain. Le mot vayetzer Vayitzer Hachem Elohim et Adam, Rafar, Min Adama, etc. C'est un verset que l'on trouve dans le chapitre 2 de Béréchit. Donc, on parle de la création de l'homme qui, ce mot, il créa à deux youds pour indiquer qu'il l'a créé avec deux penchants. Bon, ces remarques sont tout à fait d'actualité en ce début du mois d'Eloul. Cette guerre contre le mauvais penchant, eh bien, c'est en quelque sorte ce qu'il y a à faire systématiquement pendant ce mois de Eloul, de manière à se présenter devant Hachem à Rosh Hashanah, puis à Kippour, avec une préparation spirituelle et morale parfaite. Voilà donc cette allusion. Et nous avons lu, toujours dans ce début de paracha, Venatno, Hachem Elokecha Beyadecha, et le Seigneur ton Dieu le livrera en tes mains. C'est-à-dire que, toujours dans ce sens rémèse, hein, dans l'allusion, on a l'allusion que cette guerre que l'homme entreprend contre le mauvais penchant, eh bien, le mauvais penchant, Venatno, lui, au singulier, il sera livré entre tes mains, en ton pouvoir. Donc, voilà d'une manière assez facile à comprendre, en définitive, que derrière le sens évident du pshat, on a un autre sens qui est le sens allusif. On n'a pas affaire qu'à une guerre, on a aussi affaire à une guerre non pas contre des ennemis, mais contre une part de ses penchants. Puis, on est invité à regarder plus profondément ces mots et les versets de la Torah, car on sait qu'il y a toujours des profondeurs considérables et que si on revient sur un même verset, eh bien, on apprend encore du même verset. Et là, nous avons cette indication que, comme on l'a dit, un soldat désire une captive et on lui a donné la recette en définitive pour l'épouser. Certes, mais réfléchissons un peu. Un soldat de l'armée d'Israël, c'était un soldat d'élite spirituelle. Rappelons-nous comment ces soldats de cette guerre ont été sélectionnés. Il est écrit dans les versets de la Torah, qui est l'homme qui a bâti une maison neuve et qui ne l'a pas inaugurée? Parmi les soldats réunis pour se préparer à la guerre, eh bien, certains avaient construit une maison, mais n'avaient pas encore inauguré la maison. Eh bien, qu'il s'en aille et retourne chez lui. Donc, on a déjà des conscrits potentiels qui doivent se retirer des troupes combattantes. On a encore d'autres conditions. Oumiaïch, Ashernatar, Kerem, etc. Qui est l'homme qui a planté une vigne et n'en a pas joui? Il n'a pas encore fait du vin, il n'a pas goûté le vin de cette vigne. Qu'il s'en aille, qu'il retourne chez lui. De même, qui est l'homme qui s'est fiancé et n'a pas encore épousé cette fiancée? Qu'il retourne chez lui. Qui est l'homme qui a peur? Vous imaginez ces soldats qui s'apprêtent à partir à la guerre. Bon, il est humain d'avoir peur d'un combat et d'une mort éventuelle. Eh bien, le verset nous dit, Miaïch, Ayaché, Aleva. Il a le cœur faible, tendre. Donc celui qui a peur et dont le cœur faiblit, eh bien, qu'il s'en aille, il retourne chez lui. Alors, on imagine que la troupe s'est affondue. On ne va plus avoir le nombre de soldats prêts à partir à la guerre. Ce qui reste, c'est donc une élite et donc l'apparente incohérence de ce que l'on vient de lire, c'est que cette élite spirituel va pouvoir être l'objet de ce que nous dit le début de la paracha, s'il fait une captive, si cette captive, il a souhaité se marier avec elle, mais c'est curieux, un soldat de cette hauteur spirituelle qui souhaite contracter un mariage mixte, c'est a priori étrange. Pour comprendre cette permission, il faut rentrer dans la partie sode du Pardès, c'est-à-dire ce mode d'interprétation qui quitte le sens littéral, qui quitte le sens allusif, qui quitte le sens midrashique. On entre dans une lecture qui est beaucoup plus profonde. Bon, là, il faut faire un petit peu attention parce que, disons, la lecture au niveau du sode, c'est du sens ésotérique, du sens secret de la Torah, du sens mystique de la Torah. C'est une chose qui est un peu dans l'air du temps aujourd'hui et depuis plusieurs années. Nombreux sont ceux qui les abordent comme s'il s'agissait d'un exercice anodin, ceux qui abordent les versets comme s'il était tout à fait normal d'aller les examiner en en tirant le sens mystique. Pourtant, nous avons des conseils de prudence de nos maîtres, par exemple Rabbi Chaim Vital, mais aussi les contemporains comme Rabbi Yaakov Hillel ou Rabbi Zecharia Zermati. Et ce dernier a rappelé que telle était la position de Manitou, de Rabbi Yehuda Ashkenazi. Certains aspects de cette tradition, donc il s'agit d'être particulièrement prudent, voire certains disent ne pas toucher cela avant d'acquérir une certaine connaissance plus que certaine, tout à fait importante, dans la Torah, la Halakha, le Talmud, etc., etc. Mais malgré tout, il est difficile de ne pas aborder la Torah en oubliant totalement la partie sode. Nous avons par exemple Rabbi Eliaou Manque, qui a dans son ouvrage majeur, Kol HaTorah, il a juxtaposé des commentaires rationalistes, comme ceux de Maïmonide, de Abarbanel, de Rabbi Hirsch, etc., mais aussi des commentaires s'appuyant sur des dimensions mystiques et sur des interprétations qui vont bien au-delà du Pshat, du Remez ou du Drash. Et par exemple, en s'appuyant sur le Zohar HaKadosh, sur des Mekoubalim, sur Akhanati, sur Béhayé, etc. Et dans son Sefer Sfat Emet, l'Admour de Gour a précisé, il semble indiqué et souhaitable pour tous, je répète tous, d'apprendre pour le moins les principes de morale du Zohar, de même que ses interprétations des paroles de la Torah, pour autant, bien entendu, pour autant qu'elles nous soient accessibles. Et c'est dans ces limites, bien entendu, que nous essayons, quand c'est possible, dans ces drachotes, de donner aussi la coloration du sode dans la compréhension des versets de la Torah. Ici, la Torah nous parle d'une captive et nous parle d'autoriser cette captive qui n'est donc pas une femme juive. Cette permission, concrètement, rend permis l'interdit. Eh bien, si on aborde le domaine du sode, on va comprendre cette permission comme étant une permission théorique pour rendre permis l'interdit, justement, afin de retirer à cet interdit sa saveur, son attrait. Et de la sorte, par cette concession au mauvais penchant, l'homme ne succomberait plus à l'attrait de la captive, puisqu'elle n'est pas interdite. Elle devient théoriquement permise, quitte à y passer le temps qu'il faut pour qu'elle devienne permise par une conversion, etc. Ce même genre d'explication permet de comprendre d'autres éléments. On nous dit par exemple que si quelqu'un, et ça c'est un enseignement de Rabbi Elaï l'Ancien, Si un homme voit son mauvais penchant le dominer, eh bien, qu'il aille, qu'il mette des habits noirs, etc., et qu'il ne profane pas publiquement le nom d'Hachem. Pourtant, tout n'est pas permis, évidemment. Mais derrière ces permissions théoriques, il y a une arme, en fait, pour éviter que le péché ait ce goût de fruit défendu. Comme le dit Shlomo HaMelech dans Michelet, dans le livre des Proverbes, douce est l'eau volée, délicieux le pain dérobé. Ce qui veut dire, bien sûr, que le fruit défendu a un certain goût, mais si on le rend permis, théoriquement, il perd son attrait. Ainsi, on a donc une espèce de ruse envers le fauteur potentiel qui devient en quelque sorte fort par rapport à son mauvais penchant, puisque le mauvais penchant, il n'a pas à lutter contre lui en disant c'est interdit, je veux ceci, mais il a une arme en disant non, ce sera permis, ça peut être permis, donc ça perd son goût. Voilà donc un élément d'explication à ce niveau-là. Rabbi Chaim Ben Attar a écrit dans son commentaire de la Torah, il convient de réfléchir à la question de savoir pourquoi Dieu a permis cette concession au mauvais penchant. Et surtout, au moment précis d'un miracle, la victoire garantie sur tous les ennemis. Pour quelle raison une telle chose est-elle permise, risquant de détacher de nous Hachem? Et le principe de base figure dans ce que nos sages ont dit, à savoir qu'à la suite du péché originel d'Adam, de nombreuses et précieuses âmes ont été prisonnières du mauvais penchant. Ce sont les âmes des prosélytes et de grands personnages parmi les nations qui se sont retrouvés non-juifs. Au moment du don de la Torah, les peuples ont reçu la proposition d'Hachem de devenir des juifs, en quelque sorte. Et ils ont dit, ah non, non, la Torah, on n'en veut pas. Mais dans ces peuples existaient des âmes pures qui souhaitaient la Torah. Mais bien entendu, ils n'ont pas pu, puisque le peuple dont ils faisaient partie a refusé. Ils ont été amenés également à faire partie de ce refus. Mais certaines âmes pures, telles que Ruth, telle celle qui a animé ensuite Ruth, la Moabite, ou Shemaya, ou Aphtalion, les grands prosélytes de notre peuple, eh bien, ces âmes ont pu revenir et se convertir. Donc l'idée qui se trouve dans ce niveau-là du Sod, c'est que il est dit « Velakarta lach » et tu prendras pour toi comme épouse. Ce verbe est à l'impératif. Pourquoi? Que c'est un mérite de, non pas de prendre cette femme de bonne apparence et de lui ouvrir la voie au peuple d'Israël, mais le sod, c'est que, en fait, il y a des âmes pures qu'il faut ramener à Eretz Israël, au Ram Israël. Et c'est d'ailleurs l'une des explications que l'on peut donner, qui peut nous aider à comprendre, en tout cas, pourquoi des personnes qui, a priori, n'ont aucune raison de souhaiter la conversion. Ce n'est pas pour se marier avec quelqu'un, ce n'est pas pour obtenir un job, mais pourquoi veulent-elles prendre sur elles les mitzvot? C'est aussi des obligations. Ne pas respecter Shabbat, si on n'est pas juif, ce n'est pas un problème, ce n'est pas du tout une faute. Mais pourquoi prendre sur soi des obligations? Eh bien, on peut comprendre qu'il y a une âme qui exige de revenir à sa source, et ce qui lui permet de faire des efforts a priori invraisemblables, mais parce qu'il y a une exigence de cette âme pour retourner à sa source. Et voilà, donc ce sujet-là nous amène, au-delà du pshat, au-delà du remez, nous amène à comprendre quelque part le tikkun, la réparation du monde et la réparation de dames qui avaient été égarées et qui reviennent à leur source. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.